Ils sont appelés par plusieurs noms dans la Bible. Tantôt les mauvais esprits, les esprits méchants ou les esprits impurs. Tantôt les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Très souvent, on les appelle démons. Les musulmans les appellent djinns. Il peut y avoir plusieurs sortes, mais ils sont tous des alliés ou des serviteurs de Satan, l'ennemi de nous tous. Comme Satan, ils essaient d'éloigner les hommes de Dieu, de détourner notre dévotion du Créateur et de nous asservir. Bien qu'invisibles, ils œuvrent parmi les hommes de plusieurs manières. Selon 1 Timothée 4, verset 1, ils sont à la base des faux enseignements qui détournent les hommes de la vraie foi chrétienne. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Jean 4, verset 1 aussi, associe aux faux prophètes les esprits qui ne sont pas de Dieu. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ces démons ne se manifestent pas en tant que tels quand ils inspirent les fausses doctrines. Ils se cachent et ils se déguisent en anges de lumière, selon 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Les démons se cachent également derrière les idoles et les fétiches qui, selon leurs adorateurs, sont très utiles aux hommes. En Deutéronome 32, versets 16 et 17, Moïse reproche le peuple israélite leur infidélité envers Dieu. Il dit, « Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. » Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul reprend la même idée, en expliquant pourquoi le chrétien ne doit jamais sciemment manger de la viande qui a été sacrifiée à une idole. Il dit que la puissance qui est derrière les idoles et les fétiches est, en fait, une puissance démoniaque. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? 1 Corinthiens 10, versets 19 à 22. La Bible reconnaît et l'existence et la puissance des démons. Ils font même des miracles afin de séduire les hommes et les éloigner de Dieu. Elle parle, par exemple, de l'apparition d'un impie qui se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10. Les démons se manifestent aussi par la possession. Que veut dire être possédé? Il ne s'agit pas d'une personne qui commet tel ou tel péché qui est la spécialité d'un esprit particulier. Par exemple, une personne qui vit dans le péché sexuel serait possédée d'un esprit de fornication, ou une personne qui ment très souvent aurait un esprit de mensonge. Jean-Baptiste, Jésus, les apôtres de Christ, eux tous disaient aux hommes pécheurs de se repentir, ce qui veut dire prendre une résolution ferme d'abandonner ses péchés pour faire la volonté de Dieu. Considérez par exemple les instructions que Jean-Baptiste donnait. Il vint aussi des publicains, des collecteurs d'impôts pour le gouvernement romain, pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Luc 3, versets 12 à 14. Ni Jean, ni Jésus, ni les apôtres n'ont jamais dit à un pécheur, « Vous êtes possédé du démon de cupidité, je dois le chasser. » Ou bien, « Vous avez les démons de l'adultère, d'escroquerie et de colère. On doit faire votre délivrance. » Ils ont dit plutôt, « Repentez-vous » ou « Va et ne pêche plus ». La possession démoniaque n'était pas une condition que la personne concernée ou son entourage ignorait jusqu'à ce qu'un prédicateur ou un prophète les en informait. Rien dans la Bible ne suggère que la possession était comme une maladie qui devait être dépistée et diagnostiquée par un médecin. Dans un cas de possession, l'esprit mauvais entrait dans le corps d'une personne et prenait contrôle de sa vie, à des moments précis ou en permanence. Dans certains cas, on voit que l'esprit parlait par la bouche de la personne qu'il possédait. La personnalité du possédé était supprimée et la voix qu'on entendait était celle du démon. La Bible n'attribue pas des péchés à la possession, mais elle parle parfois de certains pouvoirs du possédé, tels qu'une force surhumaine ou une connaissance de l'avenir. Et elle parle souvent de souffrance ou infirmité physique imposée par le démon. Une femme possédée était courbée et ne pouvait pas se redresser pendant 18 ans. Un autre possédé, un jeune homme, était sourd et muet, et le démon le saisissait parfois et le jetait dans l'eau ou du feu. Un cas particulièrement dramatique se trouve en Marc 5, versets 1 à 20. Jésus venait de traverser la mer ou le lac de Galilée, et pendant la traversée, il avait démontré son pouvoir sur les forces de la nature, en calmant une grande tempête. Dans le récit qui suit, nous voyons son pouvoir sur les forces spirituelles. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Quelle est la leçon que nous devons tirer de ce passage? Certaines personnes disent qu'il ne faut pas manger du porc, que c'est une viande impure, puisque les démons sont entrés dans ces animaux. Cela n'est pas du tout logique. La viande de porc que vous mangeriez aujourd'hui ne vient pas de ces animaux qui ont été possédés pendant quelques instants, il y a 2000 ans. D'ailleurs, c'était quelque temps après cet événement que Jésus dit, « Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme, ne peut le souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Marc 7, versets 18 et 19. Mais quelle est la leçon à dégager? C'est que Jésus a un pouvoir absolu sur les mauvais esprits. À maintes reprises, Jésus a chassé les démons des gens possédés, et il le faisait par sa simple parole. Ils n'avaient pas besoin de se servir d'eau bénite, de chapelet, de statuettes, de bougies ou de récitations. Ils n'avaient pas besoin de crier pendant des heures. Chaque fois, ils donnaient un simple ordre, et le démon n'avait pas de choix. Il s'exécutait. À cette occasion, l'homme était possédé d'un très grand nombre de démons. Il se nommait Légion. Or, une légion était une division de l'armée romaine qui comptait environ 5000 hommes. Malgré leur nombre, ces démons n'ont pas pu résister contre la volonté de Jésus-Christ, qui leur disait de sortir. Jésus continue de jouir d'un plein pouvoir sur les démons. Éphésiens 1, versets 21 et 22 nous rappellent que Dieu a fait asseoir Jésus au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Ce Jésus a promis rester avec ses disciples jusqu'à la fin des siècles. Pour le chrétien fidèle, il n'y a plus de raison pour craindre le pouvoir des démons. Que ce soit par la sorcellerie ou par la possession, les démons n'ont pas la possibilité de faire du mal à celui qui est en Christ. Jésus les a dépouillés. Celui qui a délivré par sa simple parole cet homme gadarénien possédé par une légion de démons, il est parfaitement capable de répondre aux prières de ses serviteurs aujourd'hui qui ont affaire avec les démons. Il les écoutera et les protégera. L'apôtre Jean nous rappelle, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, verset 4. Dès notre baptême, le Christ habite en nous par son Saint-Esprit. Il ne reste donc plus de place en nous pour un esprit mauvais.